Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus dans Radio Foot International. La dame, c'est promis, revient demain. Elle vous embrasse, bien sûr, et pense à vous et deux, trois trucs en plus. Mais pendant ce temps-là, la planète foot continue de tourner, elle, sans niaiser et à vitesse grand V en Europe, bien sûr. Nous allons en parler, mais c'est de l'autre côté du globe que nous allons d'abord vous emmener. Comme un voyage en ballon, c'est au Cambodge que nous irons. Son fleuve Mekong, ses temples d'Angkor... Temple d'Angkor. Sa capitale, Phnom Penh, et sa première ligue, oui, là-bas aussi, il y a une première ligue, et pourquoi pas, au sein de laquelle évolue depuis deux ans le Dangkor Senchey, autrement appelé club des éléphants. Ça ne s'invente pas, et comme l'histoire est bien faite, qui en est le capitaine, voire le héros? Un Ivoirien naturalisé cambodgien, mesdames, messieurs, Abdelkader Koulibaly, attaquant, il vient d'ailleurs de marquer son premier but en sélection. Thomas de Saint-Léger l'a repéré, Radio Foot l'a invité. Eric Rabé, Sandra Tana, les championnats dits exotiques, c'était pas trop votre truc à vous.
On n'a pas l'occasion de les voir.
Nancy, en même temps.
C'est moche, l'attaque directe, oui, quand même. Très exotique, mais ça marchait bien quand même.
Bon, après cette entrée en matière inattendue, nous reviendrons dans le quotidien du foot européen. Quelques mots sur la Bundesliga, le Bayern leader. Bon, ça, c'est pas vraiment une info. Mais l'Eintracht Francfort, son dauphin, c'est plus anodin, devant le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig. Prêt à nous expliquer le pourquoi du comment, David Lortolari, bonjour.
Oui, volontiers Olivier, bonjour, avec plaisir.
Ouais, hein, on sait que ça vous plaît ça. Et parler de la boulie nous amènera logiquement à passer toute la deuxième partie de l'émission à parler de... Eh ben oui, la Ligue des Champions évidemment, les matchs du jour évoqués hier, vous connaissez le principe, ceux de demain, ben, le seront logiquement aujourd'hui. Et quelles affiches les amis, Borussia Dortmund, Barcelone, tadam, le quatrième au classement face au cinquième, Juventus, Manchester City, où en sont les Citizens? Une victoire en 9 matchs et dans cette C1, une pâle, très pâle 19e place pour le moment. Et puis on n'oublie pas les deux clubs français, notamment Arsenal-Monaco, le 8e chez le 7e, et enfin Lille, Sturm Graz. Excitante cette soirée de mercredi, Ludovic Duchesne, non?
Bonsoir.
Vous avez fait votre choix,
tous.
Par exemple. Qu'est-ce que vous allez regarder demain?
Moi, je vais regarder Arsenal Monaco.
Bah, bien sûr.
J'adore l'équipe d'Adi Houter et je vais regarder tout ça. Ça me passionne. Et Lille va se qualifier demain, donc des bonnes choses à venir. Le PSG va gagner. Non, il va se passer plein de choses.
Il est devin, monsieur.
Le décor est planté. Pierre Guérin a du Cambodge. Son guide petit futé. Laurent Salerno a son billet réservé. Il n'y a plus qu'à en parler.
For me, it's a big dream. It's a big dream because I never expect to play for the Cambodian national team. So I'm dreaming, and it's a big dream. It's a big dream for me.
Koulibaly, vous avez reconnu les commentateurs cambodgiens, ça donne envie, c'est vachement mieux que tout ce qu'on entend chez nous. Koulibaly, il va être en direct avec nous. Laurent Salerno me disait qu'en écoutant son jingle, il riait. Abdelkader Koulibaly, mesdames, messieurs, né dans l'est de la Côte d'Ivoire et devenu star au Cambodge. Si ça, c'est pas de la planète foot façon belle histoire, je m'y connais pas. Direction donc, le Cambodge, les rives du Mékong, on l'a dit, et la capitale, Phnom Penh. Bonjour Abdelkader.
Bonjour, bonjour à vous. Bonjour.
Ça vous a fait rire alors ce jingle?
Ouais, c'est...
Ben, c'est vrai.
Data Koulibaly,
ben oui.
C'est un peu marrant.
Vous avez l'habitude, dites donc, vous parlez bien anglais, j'espère que vous vous débrouillez aussi bien en français. Hein.
Ouais. Je parle bien le français.
Ben oui, c'est votre langue maternelle, si l'on peut dire. Vous avez 31 ans, je l'ai dit, vous êtes né à Mbayakro, c'est ça, dans l'est? Ouais, dans l'est de la Côte d'Ivoire.
Oui, c'est ça.
Et en 2018, vous débarquez au pays des Khmers. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui vous amène au Cambodge?
Bon, je suis arrivé au Cambodge par hasard. Hein. D'abord, je quitte la Côte d'Ivoire pour la Roumanie. Et après, je repars en Côte d'Ivoire. Je pars au Sénégal. Je joue un peu au Sénégal. Je repars encore en Côte d'Ivoire. Et après, là, je pars en Malaisie, en Indonésie. Puis... j'atterris au Cambodge.
Vous aimez les voyages?
Ah ouais.
Ouais.
Et à chaque fois, vous jouez en championnat?
Non, parce que j'ai joué un championnat au Sénégal, j'ai joué un championnat aussi un peu en Côte d'Ivoire. Et après, je suis allé faire des tests à Malaisie qui n'ont pas été concluants. Et puis bon, c'était un peu compliqué. Donc, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et après, j'ai un ami qui m'a dit, bon, si tu peux voir au Cambodge, peut-être que tu pourras avoir une opportunité au Cambodge. Et c'est là que je pars au Cambodge.
Et c'est pas banal, hein, parce qu'il faut y aller au Cambodge. Moi, j'ai eu la chance d'y passer il y a 25 ans. Ça a dû bien changer, mais quand même, passer de la Côte d'Ivoire au Cambodge, c'est un changement de vie à 100%, un vrai dépaysement, comme dit Eric.
C'est clair. Il y a la langue, il y a la nourriture, il y a le mode de vie et tout ça. Mais tout est différent. Franchement, c'est différent. Mais c'est un peu le foot, hein. Le foot, tu as amené à voyager, tu as amené à découvrir des nouvelles choses. Donc on est un peu habitué.
C'est la passion du foot. De toute façon, tant que vous jouez, peu importe où vous jouez.
Ouais, c'est clair. C'est la passion du foot, hein. C'est la passion. Tu essaies de toujours jouer, toujours être en compétition, quel que soit l'endroit. Et voilà, c'est la passion qui nous conduit, un peu partout, hein.
Un peu partout et notamment dans ce championnat cambodgien qu'on appelle la première ligue. Vous jouez pour le Dangkor Senchey. Vous avez marqué 2 buts, une passe décisive cette saison en 12 matchs. Bon, niveau championnat, c'est moyen. 7e sur 11, 4 victoires, 2 nuls, 7 défaites. J'ai bon ?
Oui, c'est bon. Bon, cette année, c'est un peu compliqué. L'année passée, j'ai fait une très belle saison. Mais cette année, on a eu beaucoup de blessés, beaucoup de départs. Donc, c'est très, très, très compliqué pour l'instant, mais je pense que voilà. Je pense que ça ira dans les prochaines journées, je pense. Ouais, je pense que ça ira.
Vous y êtes depuis bientôt 3 ans, hein, et vous êtes l'attaquant de ce club depuis 3 ans, club qui a été fondé il y a 8 ans.
Oui.
Et ça n'est pas votre premier club au Cambodge ?
Non, j'ai commencé avec le club d'Asie Europe United, qui n'existe plus maintenant, qui a fait fight, donc qui a arrêté. Et j'ai joué avec le club de la police.
Bah comme ça c'est plutôt pas mal. Ça peut aider quand on s'installe dans le pays. une première question d'Eric Ravissandratana.
Ouais, juste pour avoir une petite comparaison, pour savoir un peu, ça correspond à quoi le niveau du championnat là-bas ?
Le niveau du championnat, ça correspond un peu à, je pense, au DH. DH okay. Française.
D'accord.
Ouais, DH française. Ouais.
DH française. Ludo, vous aviez une question aussi.
C'était un peu la même. Ah. Mais non, je voulais savoir comment vous vous sentez aujourd'hui dans ce football-là. Est-ce que vous allez de nouveau partir en voyage? Puisque j'ai l'impression que là, vous êtes un grand voyageur. Donc, est-ce que vous restez au Cambodge maintenant ou est-ce que vous envisagez de partir?
Bon, là, je me sens très bien ici pour l'instant. J'ai eu aussi plusieurs proposition l'année dernière, mais j'ai préféré rester vu qu'il y avait la naturalisation en cours et tout ça.
D'accord.
Et donc maintenant je suis international cambodgien. Je l'ai bien fêté la semaine passée en marquant mon premier but. Donc je commence à prendre encore beaucoup de cotes. Je pense que je pourrais avoir un très bon club ici ou dans d'autres pays, je sais pas. Donc pour l'instant, je profite bien de la sélection et de...
C'est quand même pas banal, Abdelkader. Vous êtes donc naturalisé cambodgien, vous jouez votre premier match dimanche. Dans la Suzuki Cup, qu'est-ce que c'est la Suzuki Cup ?
La Suzuki Cup, c'est un tournoi qui est organisé, je pense, chaque 2 ans par les pays de l'Asie du Sud-Est. Donc, les pays qui comptent la Malaisie, le Laos, le Vietnam,
la Thaïlande,
le Cambodge, la Thaïlande, voilà, un peu ces pays-là.
Et donc, vous faites 2-2, enfin, l'équipe nationale du Cambodge fait 2-2 contre la Malaisie et vous marquez pour votre première sélection. L'histoire est belle.
Ouais, c'est...
Est-ce que vous êtes une star là-bas ? Est-ce que vous êtes une star au Cambodge ?
Ouais, je pense bien. Je pense que maintenant, je commence à avoir beaucoup d'interviews. Hein. Beaucoup de messages et voilà. beaucoup de
les gens vous reconnaissent quoi. Ouais.
Mais racontez-nous dimanche, qu'est-ce qui se passe quoi ? Première sélection, c'est quand même déjà énorme pour un Ivoirien cambodgien.
Ouais. Au fait, la première sélection, pour moi, j'avais vraiment beaucoup de choses à démontrer. Et la Malaisie a toujours battu le Cambodge. Ils ont toujours battu le Cambodge. Et le Cambodge a vraiment... Il se sent un peu inférieur par rapport à la Malaisie. Donc, je disais, pour ma première sélection, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je... Voilà, j'impacte l'esprit des gens et c'est qui m'a poussé à tout donner. Mais c'était un peu compliqué au début parce que j'arrivais pas à bien m'entendre avec mes coéquipiers et tout ça. Mais voilà, mais à la fin, j'ai pu marquer le but égalisateur et c'est ce qui nous a permis d'arracher un nul. Et franchement, ça me, voilà, je suis très content pour voilà, ce but.
C'est un bon début. Quand on vous a proposé d'être naturalisé, vous, et donc en quelque sorte, en tout cas sportivement, de tourner le dos à votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas hésité ?
Bon, au début, j'ai été international. Bon, j'ai été international à Yvain, la Côte d'Ivoire. Et quand on m'a proposé, bon, à 31 ans, jouer au Cambodge, c'est compliqué d'être appelé par la Côte d'Ivoire. Donc, c'était un peu impossible pour moi de revenir en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai préféré voilà, jouer pour le Cambodge.
La Côte d'Ivoire est toujours, bien sûr, dans un coin de votre cœur.
Ouais, oui, bien sûr.
Vous avez votre famille avec vous, ou vous l'avez peut-être fondée au Cambodge, mais où elle voyage avec vous. Voilà, on imagine que on n'est pas seul à Phnom Penh.
Ouais, j'ai vécu avec ma femme à Phnom Penh. J'ai vécu avec ma femme à Phnom Penh et voilà.
D'accord. Et oui, Ludovic, question.
Abdelkader, on va parler des choses sérieuses maintenant. Est-ce qu'on gagne sa vie Est-ce qu'on gagne sa vie en jouant au football au Cambodge?
Oui et non à la fois. Ça dépend des clubs.
Alors vous?
Et voilà, moi je gagne ma vie, mais j'ai pas aussi un gros salaire comparé à la France ou comparé au grand pays, mais la vie n'est pas chère ici, les appartements sont moins chers, voilà. Donc
vous êtes heureux,
tu vis comme tu gagnes, voilà, ça va.
Vous êtes, oui, la vie est facile, vous aimez la vie à Phnom Penh, vous avez eu le temps de vous promener, d'aller voir les temples d'Angkor, j'espère.
Ouais, bien sûr, 5 ans au Cambodge, plus de 5 ans au Cambodge, normalement, je suis allé un peu partout.
Ouais, il faut reconnaître que les temples d'Angkor, c'est vraiment une des merveilles du monde. Si vous passez dans le coin, amis auditeurs, il ne faut pas hésiter. Hein. Phnom Penh, c'est bien, mais les temples d'Angkor, c'est juste magique.
C'est magique, ça.
Eric.
Ouais, juste une autre question. En termes de fréquentation, il y a d'autres étrangers ou...
Oui, il y a un peu de tout. Il y a des Brésiliens, il y a des Australiens, il y a des Canadiens, il y a des Espagnols. D'accord. Oui, il y a un peu de tout.
Est-ce qu'il y a une diaspora africaine ? Vous avez d'autres Africains avec vous à Phnom Penh ?
Oui, mais il y a, par exemple, il y a seulement 4 Ivoiriens ici. Il y a seulement 4 Ivoiriens au Cambodge que je connais. Il y a moi qui suis footballeur, il y a un qui est entraîneur et il y a deux autres qui sont aussi footballeurs aussi. Il y a des Nigériens aussi un peu de Nigériens, un peu de Ghanéens. Des Camerounais aussi, il y en a.
Quand on parle de planète football, on est vraiment 100% dedans et dans Radio Foot International, ça tombe plutôt bien. Une dernière question avec David Lortolari,
oui,
Abdelkader.
Abdelkader, un mot sur l'engouement, la passion locale. Est-ce que c'est la passion commune tout autour des continents, le même genre de passion qu'on peut avoir dans les stades en Europe ou en Afrique aussi?
Oui, mais ici, il y a un peu de différence avec l'équipe nationale.
Ah oui.
L'équipe nationale, souvent, il y a des très fortes, comment on appelle ça ?
Des rivalités.
Voilà, dans le stade, c'est-à-dire souvent, ils sont 25 000 personnes, 30 000, 40 000 souvent, ça dépend. Mais en club, il y a moins de 5 000 personnes par match.
Ouais, c'est vraiment l'équipe nationale qui attire les foules. Merci beaucoup, Abdelkader. On a été ravis d'entendre un Ivoirien. Dites donc, je le disais, vous jouez pour un club qui s'appelle les Éléphants. C'est pas banal quand on a été éléphant U20, hein?
Ouais, c'est clair. Moi, j'arrive dans le club et je me renseigne. On me dit que c'est le logo du club, c'est l'éléphant. Je dis, mais c'est bien. Moi je viens de la Côte d'Ivoire.
C'était une belle histoire.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup encore une fois, Abdelkader Koulibaly, mesdames, messieurs, qui joue du côté de Phnom Penh. On essaiera de reprendre de vos nouvelles. Portez-vous bien, profitez bien du Cambodge et de l'Asie du Sud-Est. Et à très très bientôt. Merci d'avoir été en direct dans Radio Foot International, Abdelkader.
Allez, merci, au revoir. Allez,
bon courage.
Ouais, c'est dur après ça de rentrer en Europe et en Allemagne. Allez, on envoie.
Cesco gegen alle, gegen gefühlt ganz Kiel. Šeško, Weiner und nochmal Benjamin Šeško. 1-0 für Leipzig.
RB Leipzig, 4e, 24 points.
Victoire du Bayer Leverkusen et on a eu le droit à de bien jolis buts.
Leverkusen, 3e, 26 points.
Deux buts partout. Mauvaise opération pour Francfort qui est accroché sur son terrain par Augsbourg.
Francfort, 2e, 27 points.
Le Bayern s'impose, s'offre une 10e victoire cette saison en 13 journées de Bundesliga, toujours invaincu.
Le Bayern Munich, 33 points, premier.
Vous ne trouvez pas qu'il fout un peu les jetons, Pierre-Olivier Guérin, là, quand il fait son compteur de points et de classement?
Il fait peur.
Oh, le mec
Olivier Serry,
les gars, faut le vous voyez maintenant et l'appeler monsieur. Hein. Sinon, il y a un côté Terminator, là, définitif. Pierre-Olivier Guérin, le si précieux Pierre-Olivier Guérin. Avant de parler de la Champions, c'est notamment de Dortmund, plantons le décor en Bundesliga, que le Bayern y pointe en tête après 13 journées, 10 victoires, 3 nuls. Ça n'est pas très original. Ouais. Que l'Eintracht Francfort soit son dauphin, c'est quand même bien plus original, ça, David.
Oui, il y a des choses assez objectives, assez évidentes, Olivier. Leverkusen a redémarré avec le... Il a fallu digérer la fabuleuse saison d'exercice précédent. Donc Leverkusen a pris un peu de retard au début, a laissé échapper des buts.
On revient bien, hein, Leverkusen est troisième à un point de Francfort. Et Francfort est à 6 longueurs, je ne l'ai pas dit, du Bayern.
Oui. Leipzig a les yeux plus gros que le ventre, pour parler simplement. Donc ils sont un peu en retrait aussi parce qu'ils ont eu quelques coups durs. Et puis les adversaires qu'on a attendrait les historiques des 20 dernières années, Dortmund est tellement, tellement inefficace à l'extérieur que forcément le retard s'accumule aussi. Et du coup, Francfort, avec sa tradition des attaquants qui pétillent, on pense à Haller qui est passé par là, on pense à Jovic, on pense à Rebic, on pense à tous les attaquants, Colomwani évidemment aussi, qui sont passés là dans les 10-15 dernières années.
Il marquait des buts à ce moment-là, Colomwani.
20-25, Olivier.
20-25,
oui. Je connais pas.
Ah, mais c'est ça que le club de cœur l'a acheté, puis ils se sont dit, ils ont reçu que le 5, pas le 25.
Oui, alors, mais et Francfort a pris la suite de cette tradition des bons attaquants, et avec le duo que l'entraîneur met en place, parce qu'il joue avec deux attaquants à Francfort, et Hugo Ekitike qui est passé par Paris, et Omar Marmouche, l'Égyptien, qui est plus brillant que jamais.
Je voulais vous en parler, j'ai bien listé les
Africains. Ils sont en sur-régime non.
Marmouche, 13 buts, 7 passes décisives quand même.
Ah oui,
deuxième meilleur buteur, un but d'Harry Kane, ça vous pose un attaquant, l'Égyptien Omar Marmouche.
Oui, c'est l'argument principal. Ces deux-là, pour Francfort, alors certes...
Ekitike, c'est 7 buts, hein. C'est pas
7
mal
buts,
aussi.
Avec des passes aussi. Il y a Götze, dont on se souvient d'il y a 10 ans à la Coupe du Monde, où il avait marqué le but décisif en finale. Götze est toujours là et arrive à distiller aussi de bons ballons. Mais l'argument principal, c'est ce duo, Olivier. Et en plus, ce qui joue en faveur d'Omar Marmouche, c'est que... Il y a cette rivalité avec Harry Kane pour gagner en fin de saison le titre de meilleur buteur. Je pense que dans la tête des attaquants, ça peut être un argument aussi.
Aller challenger Harry Kane,
c'est
pas mal. Et puis, pour l'instant, il ne s'épuise pas avec la Coupe d'Europe qu'il dispute par ailleurs.
La Ligue Europa qu'ils ont remportée il y a 2 ans, on le rappelle, en 2022.
Donc il y a cette culture-là aussi. Et pour l'instant, il y a cet effet d'entraînement. Ça marche bien en Ligue Europa, ça marche bien en championnat. Et c'est un peu une révélation quand même, pour répondre à la question de départ, parce que l'entraîneur Topmüller est un bon entraîneur, mais on n'attend pas forcément cet entraîneur en haut du classement.
Alors, on rappelle aussi qu'il y a Kevin Trapp, autre ex-parisien, dans les buts et de grands talents. On va écouter Dino Topmüller. C'est pour ça, bah oui, forcément. Il ne faut pas inviter un parisien quand on ne parle pas de Paris. Il est trop à l'aise.
Pardon.
On en reparlera,
attaquant
on en reparlera dans la nuit.
Un gardien parisien, attends, ne cherchez pas.
Dans la
ne
nuit.
Cherchez plus.
J'en ai un autre parisien, on en parlera après.
On va écouter Dino Topmüller. C'est bien ça ?
C'est ça, c'est ça.
L'entraîneur de cette Eintracht Francfort est plutôt fier, et on le comprend, de cette deuxième place.
J'ai dit aux joueurs que j'étais fier de leur performance face à Augsbourg. Naturellement, nous aurions aimé remporter le match et ne pas concéder les deux buts, mais l'équipe a bien réagi après avoir été menée au score. Nous essayons de nous adapter à chaque adversaire. Nous sommes deuxième du championnat avec 27 points et nous en sommes très heureux. Nous allons essayer de nous maintenir à ce niveau et ensuite nous pourrons nous reposer lors de la trêve hivernale.
On parlait de Ligue Europa tout à l'heure, ils sont plutôt à l'aise. Bah oui, dites donc, on va voir ce que ça donne face à Lyon, parce que figurez-vous qu'ils jouent Lyon jeudi dans cette Ligue Europa, l'Eintracht Francfort. Vous vouliez dire quelque chose, Ludovic Duchesne?
Non, je voulais participer.
Ah, encore, c'est bien.
Encore.
C'est un jeu collectif.
C'est incroyable.
On parlait des Parisiens, moi je ne veux quand même pas oublier Dina et Bimbe.
Très bon Parisien.
Jeune Parisien qui est dans cette équipe. Des jeunes joueurs qu'on connaît, il a joué en équipe de France Espoir, c'est Nkunku. Pas le Nkunku qui est en A qui joue à Chelsea, on parle de Nkunku qui a joué à Saint-Etienne. Ouais. Donc c'est un joueur intéressant. Et aussi Jean-Matteo Baoya qui est passé par Angers et qui joue aussi, qui est dans cette équipe, qui est milieu de terrain. Donc on a parlé de Kevin Trapp. Donc voilà, c'est une équipe qui je trouve bien construite. Il y a des joueurs qui viennent d'un peu partout.
Oui, c'est ce que
je trouve
qu'il
a réussi à faire quelque chose qui tient la route. Il y a plein de jeunes joueurs comme ça qui promettaient.
Qui est Dino Topmüller? On connaît. Il a un parcours.
C'est le fils de Klaus. C'est une légende en Allemagne, parce que Klaus Topmüller, c'était un entraîneur charismatique qui a réussi de très belles choses avec des clubs un peu, on va dire, de second rang, c'est-à-dire qui n'étaient pas destinés à gagner le championnat. De mémoire, il a fait de très belles choses avec Leverkusen. Et le fils d'eux, en Allemagne, ça parle. Il y a aussi Sébastien Hoeneß, qui est le fils de Dieter Hoeneß, qui entraîne Stuttgart. Et ça, évidemment, cette espèce de tradition d'une génération à l'autre, ça parle beaucoup. Et c'est un argument aussi pour qu'il soit reçu favorablement, cet entraîneur-là. Qui, par ailleurs, a un système très identifié. Trois défenseurs, des latéraux qui font des efforts. Il y a eu une époque, comment s'appelle-t-il, l'ancien joueur d'Auxerre, son nom m'échappe là à l'instant. Un défenseur d'Auxerre qui jouait dans la défense à trois aussi, qui s'est révélé à Francfort.
Il y a combien de temps?
Il y a quelques années, là, 3-4 ans. Son nom m'échappe, mais peu importe.
C'est pas grave, ça reviendra.
Il y a donc un apport francophone conséquent. Il y a une touche brésilienne aussi, un défenseur Tuta qui a été très fort. Il y a Timothy Chandler des États-Unis qui a aussi passé de longues années dans ce club. Donc il y a à la fois la tradition et un apport des recruteurs qui
bon
donne
gardien,
une touche de fraîcheur. Ouais. Très bon gardien aussi.
Kevin Trapp. Et puis, on a parlé de Oumar Marmouche, l'Égyptien. Il y a également un Algérien, Fares Chaibi, un Tunisien, Elias Skiri, qui joue énormément. J'ai regardé leurs statistiques. 12, 13 matchs quasiment au compteur pour l'un et l'autre. Donc des maillons essentiels de Topmüller.
Absolument. Skiri était très très bon sur les années passées. Là, il est un peu moins présent parce que peut-être il a eu des petits soucis physiques. Je ne sais plus exactement le détail du bulletin médical. Oui, absolument. Mais Chaibi, c'est l'une des... Alors, révélations sont des grands mots parce qu'évidemment, pour nous, les journalistes, dès qu'un joueur réussit un match, c'est une révélation. Mais Chaibi est aussi un élément important, Olivier, cette saison pour Francfort, effectivement.
Alors voilà pour Francfort. On a évoqué, on va dire deux mots du Bayer Leverkusen, le champion en titre, qui a eu un petit peu de mal en début de saison en championnat, mais qui s'est quand même pas mal refait la cerise, puisque, encore une fois, le Bayer Leverkusen est troisième, juste derrière l'Eintracht Francfort. Le Bayer, nettement plus en jambes en Ligue des Champions, sixième au classement pour le moment, qui jouera au moment où
ils ont,
on se parle
ils ont
contre
joué
l'Inter
l'ogre
ce soir.
Accroché par Brest.
Voilà, le Bayern, ça peut encore aller chercher et chatouiller le Bayern maintenant que c'est lancé.
Ce qu'on a constaté sur les premiers mois de la saison, c'est que le Bayer Leverkusen contre les gros, c'est top. Ils ont fait match nul contre le Bayern. Ils réussissent en Ligue des Champions parce que les joueurs, derrière la saison qu'ils ont réussi l'an dernier, maintenant voient grand.
Ouais.
Et se donne le maximum sur les gros matchs, sur les matchs de Coupe d'Europe, etc. En championnat, on a bien vu qu'ils manquaient parfois 50 cm sur les duels, qu'ils étaient un tout petit peu moins motivés, peut-être un peu émoussés dans la tête aussi après cette incroyable saison de l'an dernier.
C'est ça, il faut digérer ça quand même, c'est difficile.
Il y en a un seul Il y en a un seul, c'est son jeune âge peut-être qui explique en partie cela, Olivier, mais il y en a un seul qui a maintenu son niveau, c'est le magicien Florian Wirtz, ouais, qui est demandé partout, ah bah oui, qui a encore marqué un but incroyable ce week-end. Petit pont, frappe dans la foulée, but derrière, but décisif, parce que ça ne gagne que 2-1.
Est-ce qu'il peut échapper au Bayern? Puisque les Allemands ont ça de...
La question, est-ce qu'il peut partir même dès janvier? Parce que vous dites qu'il est demandé partout.
Mais surtout du Bayern, parce que les Allemands ont ça d'intelligent que
il a
quand il y a
prolongé, là,
un très bon joueur dans un club, en général, le Bayern le prend. Oui. Et c'est ce qui ne se passe pas en France, notamment avec le PSG. Mais le Bayern a toujours cette priorité. Alors, je ne sais pas comment il se débrouille, mais pour prendre les meilleurs joueurs de Bundesliga. Est-ce que tu le sais, ça?
Oui, alors il y a deux éléments très importants pour la décision qui nous permettront de voir un peu, de ne pas être surpris. Le premier élément, c'est que ça va coûter extrêmement cher. Le Bayer Leverkusen, alors les chiffres ne sont pas forcément hyper fiables, mais on sera au-dessus de 150 millions d'euros. Ce sont des sommes démesurées. Et il va falloir payer le salaire, bien sûr, aussi. Et le problème, c'est que
c'est pas le jeu du Bayern d'aller claquer 150. Non,
sauf que le rêve de la Bundesliga, de tout le monde en Bundesliga, c'est de voir réunis les deux petits prodiges, Musiala et Wirtz. C'est le cas en équipe nationale désormais, mais on aimerait bien les voir tous les week-ends dans le championnat, et la Bundesliga pourrait un peu gonfler les muscles en disant, vous voyez, on a gardé nos deux meilleurs joueurs, seul le Bayern peut avoir les deux, en fait.
Et c'est surtout que ça met en valeur aussi l'équipe nationale derrière.
Ben oui.
Tu les fais travailler tous les week-ends ensemble, c'est quand même une belle performance pour le reste.
Le problème, c'est que les dirigeants, Olivier, de Leverkusen maintenant sont ambitieux, et ils n'ont pas du tout envie de voir ce super talent à partir chez le rival.
Évidemment.
Et donc peut-être que un Real Madrid ou un gros club qui viendrait l'arracher aurait un argument de plus, parce que Leverkusen se dirait on préférerait le lâcher en Angleterre que le lâcher chez un concurrent chez nous.
Un dernier mot avant de clore ce chapitre Bundesliga, même si on va indirectement continuer à en parler. Leipzig, vous le disiez, qui semble quand même revenir, pas tout à fait décroché. On a trois équipes, là, le deuxième, le troisième et le quatrième, qui se tiennent en trois points. Leipzig qui a gagné ce week-end assez largement.
Oui, alors là, c'est assez facile à analyser à mon avis. C'est-à-dire que Leipzig est très ambitieux, sauf que le groupe est relativement resserré, Olivier. On le voit, 0 point en Ligue des Champions. Ils ont réussi tous leurs matchs, mais il leur a manqué chaque fois un but. Et ils ont perdu d'un but d'écart à chaque fois, contre des gros souvent, mais pas toujours. Ils ont les yeux plus gros que le ventre. Et Marco Rose, qui est pourtant l'homme clé là-bas, parce qu'il est né à Leipzig, c'est un homme de la galaxie Red Bull et de l'entraîneur idéal, mais il a survécu à une crise de plusieurs matchs d'affilée sans succès. Ils se remettent actuellement, mais... ça a été dur, cet automne a été dur, et je suis un peu étonné que les dirigeants de Leipzig, qui sont très impatients en général, aient conservé cet entraîneur.
Un gros trou d'air. Un gros trou d'air. Ils ont perdu, je crois, 5 matchs
de suite. D'affilée. Ouais.
Et là, dimanche, Leipzig-Francfort.
Oui, ils ont gagné ce match important-là pour que l'entraîneur reste en place. Il était, disait-on, menacé. Et puis, il y aura une échéance essentielle le 20 décembre contre le Bayern. Et là, on verra si c'est une équipe suffisamment solide pour rivaliser avec le Bayern. Mais il y a Francfort qui vient avant,
Oui,
c'est une fin d'année radicale pour eux.
Oui, ils ont deux matchs vraiment capitaux en 8 jours. Et puis, ils ont Francfort, puis le Bayern.
Et puis, dernière chance en Ligue des Champions. Peut encore se qualifier, à accéder aux play-offs si on gagne tous les matchs qui restent, les trois, mais c'est une mission très compliquée.
À condition que ça passe à 9 points,
compliqué.
On est sûr que ça passe à 10 équipe. Quasiment, à 9, on verra.
Ça me rappelle l'équipe.
Très compliqué. Ah oui. Oui. Transition.
On s'arrête là pour la Bundesliga, mais on va évidemment parler dans quelques secondes de Dortmund, seulement 6e. Et on en parle pourquoi ? Parce que Dortmund, demain, joue en Ligue des Champions. Champions. 20 petites minutes, il nous reste, messieurs, pour évoquer... 4 matchs, on en a choisi 4, mais vous avez le droit d'en évoquer d'autres si vous voulez. Après les 9 de ce soir, donc 9 rencontres demain de la 6e et avant-dernière journée de cette Ligue des Champions à poule unique, et de sacrées affiches au programme. Donc nous en avons choisi 4, je vous propose d'attaquer par, évidemment, Barcelone, Borussia Dortmund. On reste du côté de la Bundesliga. Barcelone actuel 3e de cette poule unique, Dortmund 4e, donc deux équipes qui sont assurées d'être qualifiées. Oui, c'est à Dortmund, c'est Dortmund-Barcelone, vous avez raison. Assurées d'être qualifiées avec 12 points et bien parti pour l'être directement. C'est quand même une sacrée affiche, quoi, Barcelone-Borussia Dortmund.
Par contre, c'est important que ce soit à Dortmund, parce que en regardant les résultats du club de la Ruhr, c'est quand même mieux si c'est chez eux. Hein. Je crois qu'à domicile, ils ont 6 victoires, 1 nul, et le nul, c'est contre le Bayern, qui a souffert quand même, à Dortmund. Donc, je pense qu'en plus, le Barça est dans une mauvaise passe. Ils viennent d'être accrochés par le Betis, ont perdu contre la Spal.
Ils ont vu leur avance en Liga fondre en tête. Ouais, le Real gagne son match de retard contre Valence et se rend leader.
Peut faire quelque chose sur ce match-là. Après, et pourquoi pas aller battre le Barça.
Après, c'est jamais pareil. La Ligue des Champions, on les a vus un peu en dents de scie. Mais ils se sont bien repris quand même pour revenir comme ça, le Barcelone. Donc pour Dortmund, ce sera quand même pas facile. Mais c'est surtout surprenant de voir Dortmund là dans les quatre premiers finalement, puisque il y a plein d'équipes qui sont pas là,
mais c'est
comme
un peu...
le Real Madrid, comme d'autres, comme Manchester City, comme le PSG.
Eric connaît mieux.
On rappelle juste que Barcelone a perdu son premier match à Monaco,
c'est
3-2,
et ensuite
a enchaîné 4 succès.
Ils sont là, c'est pour ça que je te dis.
Eric connaît mieux que nous le mental des joueurs de haut niveau, mais j'ai l'impression que comme ce qu'on disait tout à l'heure pour Leverkusen qui ne pousse les feux que dans les grands matchs. Dortmund, il y a des joueurs à Dortmund qui sont un peu nonchalants, qui sont un peu, alors c'est un peu dur mon jugement peut-être, qui sont un peu comme
ça. Non mais après c'est une
négligent sur certains matchs et
genre
sur
Adeyemi par exemple.
Peut-être oui mais d'autres. Schlotterbeck qui est un super défenseur, il nous fait parfois des trucs, il a des absences incroyables qui sont moins vraies dans les grands matchs.
On a envie de voir Serrou Guirassy.
Non mais c'est
brillé dans ce genre de match là, l'attaquant guinéen. Non, on parle d'abord de Serrou Guirassy.
Allez-y,
c'est moi le patron.
Il y a pas de problème.
Moi je veux dire un mot de Serrou Guirassy. Dortmund, on parlera d'un autre très grand buteur ancien de Dortmund, aujourd'hui à Barcelone. Robert Lewandowski, mais d'abord Serrou Guirassy, c'est dans ce genre de match-là qu'on a envie de le voir franchir une étape, briller, s'installer en Ligue des Champions et face au Barça.
Et il a le bagage autour de lui, puisqu'il y a le petit anglais, là, Jamie Gittens, qui est très en forme, qui est un dribbleur, qui peut lui donner des ballons. Il y a Julian Brandt, qui peut être le chef d'orchestre derrière lui. Quand ça veut bien marcher, et à Dortmund, puisque c'est là que ça va se passer, il y a un souffle inexplicable dans ce stade qui fait que les joueurs ne sont pas du tout les mêmes sur une heure et demie qu'ils ne sont à l'extérieur. Il a tout pour briller, effectivement, dans un match comme ça, avec les joueurs autour, avec l'appétit, parce que Nuri Sahin est un entraîneur qui était quand même porté vers l'avant quand il était joueur. Et donc, il y a cette espèce de souffle offensif aussi. Tout pour avoir un bon match. C'est bien de l'avoir sélectionné en premier, Olivier, ce match-là.
Merci. Il fait bien son travail, Eric. Des fois, quand même, Olivier.
Alors, justement, j'attends que vous fassiez le vôtre.
Mais je voulais dire, justement, mais ça correspond à ça. C'est toujours un peu inconscient, cette réaction qu'on a.
Voilà.
C'est toujours inconscient et... Un joueur comme Guirassy peut aussi élever son niveau parce
qu'inconsciemment,
il sait que c'est très valorisant d'être performant contre ce genre d'équipe. Et donc, ça peut être vraiment bénéfique pour Dortmund.
Mais ils sont quand même très inquiétants parce qu'à l'extérieur ce week-end, ils mènent 1-0 à Mönchengladbach, qui est quand même un club un tout petit peu en dessous. Ça se passe bien et puis d'un seul coup, ça se délite. On a un joueur qui ceinture dans la surface un adversaire. L'arbitre décide de siffler pénalty. Un partout, 2 points encore de perdu.
Oui.
À l'extérieur, c'est pas du tout la même équipe. Oui, c'est une équipe fantomatique.
Et en plus, c'est avant match de Ligue des Champions. On peut l'observer sur d'autres équipes partout, un peu comme ça, dans le. Quand c'est pareil. Tu inconsciemment, tu déconnectes parce que t'es quand même, y a quand même un job à faire, mais il n'empêche que tu sais qu'en gardant un peu de réserve derrière, tu vas être très performant sur ce match de Ligue des Champions qui arrive derrière. Donc c'est pas surprenant non plus des fois.
Serrou Guirassy qui a pris la place il n'a pas pris sa place, mais il occupe le poste qu'occupait il n'y a pas si longtemps Robert Lewandowski, 36 ans. Les stats sont incroyables encore cette année à 36 ans pour le Polonais. 23 buts en 21 matchs, toutes compétitions confondues. Il est là,
le changement d'entraîneur. Il est bien content du changement d'entraîneur aussi parce que ça le remet vraiment en valeur et ça lui permet de retrouver un petit peu ses racines.
Il se connaissait.
Évidemment.
Bon, enfin voilà, un match à suivre. Le match numéro 2 que nous avons sélectionné, je suis en train de chercher dans mes fiches, évidemment.
Juve City.
Juve City, voilà, c'est ça, Juve City.
Mais pas bien.
Il est où ? Ben voilà, je cherche. Ah, mais il est là. Juve City, donc, c'est pas mal aussi comme match. Il y a l'équipe qui fait le plus de nuls de la planète, Thiago Motta, mais c'est vrai, la Juve est 6e. De Serie A. Pardon Laurent Salerno, il faut bien dire du mal un tout petit peu de temps en temps. 6 victoires, 9 matchs nuls en championnat. C'est la seule équipe invaincue en Serie A.
Bah ouais, mais ils avancent pas en fait. Ils sont
c'est ça.
6e de Serie A.
Quelquefois, on se dit. Ça s'est vraiment resserré devant avec l'Atalanta qui est devant, la Lazio, la Fiorentina. C'est un match des pas bons contre des pas en forme.
Oui, parce que Manchester City. C'est pour ça qu'il est intéressant ce match-là. Ce sont deux très grands noms. Ce sont deux équipes qu'on pourrait voir se mêler à la lutte pour le titre, qui sont pour le moment dans le classement 17e à Manchester City avec 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. La Juve est 19e avec le même nombre de points. 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Manchester City, on a cru que c'était reparti, puis finalement on en est quand même sur une victoire sur les 9 derniers matchs.
Oui, mais j'ai quand même envie de dire qu'ils font un meilleur parcours en Ligue des Champions cette année que là sur le dernier parcours qu'ils font en championnat, où là ils ont vraiment ils ont vraiment chuté d'un seul coup. Alors, ils sont contents de retrouver quelques joueurs de retour de blessure, parce que évidemment, on ne va pas se voiler la face. C'est quand même ça le gros problème de Manchester City, c'est d'avoir perdu ses joueurs et de ne pas avoir derrière finalement les joueurs qui sont capables de garder le rythme.
Il joue toujours avec les mêmes joueurs, Pep Guardiola. Évidemment. Donc forcément, à un moment,
il y a des joueurs qu'il a perdu. Hein,
il y a des joueurs, exactement.
Ouais. Il a disparu. Le gardien, il préfère Ortega au gardien Ederson. Donc il faut aussi des choix qui sont peut-être pas aussi évidents. Lui aussi, on a eu l'impression qu'il a perdu un peu le feu sacré.
Mais il l'a perdu, c'est sûr.
Guardiola.
Le fil par rapport à son équipe, par rapport à peut-être son jugement, où il est basé sur une performance qui a été tellement habituelle chez eux que derrière, bah, tu te fies à ça, mais le rendement des joueurs n'est plus du tout au même niveau. Et du coup, tu te trompes peut-être dans ces choix aussi.
Et puis David parlait tout à l'heure de Dortmund qui mène 1-0, tout va bien, puis tout d'un coup ça se délite. Ouais. Bah, Manchester, c'est exactement ça. En championnat, encore ce week-end, Manchester City mène, et puis tout d'un coup, boum, défensivement, c'est catastrophique ou presque ces dernières semaines.
C'est hallucinant quand même de voir ce club aussi performant depuis tant d'années, être capable de sombrer comme ça. Tu sais, tu as toujours des périodes où tu es un peu moins bien dans un championnat, où les joueurs sont peut-être un peu plus fatigués, ça arrive souvent en hiver. Mais là, de chuter autant et d'être aussi mauvais, puisqu'ils sont quand même mauvais, tu te dis, putain, mais c'est incroyable.
N'oublions pas l'épée de Damoclès qu'ils ont au-dessus d'eux, avec le procès du siècle, ce qu'on appelle en Angleterre le procès du siècle, contre la Première Ligue. C'est, je pense, quelque chose avec, je crois qu'il y a plus de 115...
Rappelez à nos auditeurs le pourquoi du comment.
Mais c'est par rapport à des irrégularités qui ont été relevées. Il y en a plus de 115 qui ont été relevées. Donc, ils sont vraiment... ça peut être extrêmement grave pour eux, jusqu'à être relégués dans le Championship. Et il n'y a pas ils n'ont aucune certitude de s'en sortir sur ce coup-là. Donc, ils ont beau dire, non mais nous on fait pas attention, on joue au foot, etc. Moi je pense que non.
Après les joueurs,
je me pose des questions, parce que sincèrement...
En général les joueurs, t'arrives quand même à faire abstraction, en plus c'est des joueurs d'expérience, donc t'arrives quand même à te concentrer sur l'essentiel.
Ouais, mais Guardiola, est-ce que ça l'affecte pas? Est-ce que finalement dans ses choix, des fois il suffit de pas grand chose pour dérégler la machine, et on a l'impression qu'elle est complètement déréglée là.
Surtout qu'il est déjà à moitié en train de partir, parce que je pense que dans sa tête il se dit, bon bah je vais pas enchaîner derrière.
Tout en ayant prolongé par
ailleurs. Oui, c'est pour ça, je veux dire.
Ça va mal depuis qu'il a annoncé qu'il avait prolongé quasiment, il prolonge de deux saisons et après, bing, patatras, tout fout le camp, les gars sont dire ah non, bah non, pas deux ans de plus, non.
On va encore tout gagner.
On sait ce qu'on fait le lundi, on sait ce qu'on fait le mardi, on sait ce qu'on fait le mercredi.
Et au prix où il est payé, si eux, s'ils doivent le virer, ça va faire mal. Hein. Ça va leur coûter un peu cher.
Bon, et en face, la Juve. Parce qu'encore une fois, on a des grands noms.
Mais oui.
C'est pas Bologne.
Non, mais après, c'est toujours difficile de tu fais des nuls, donc tu gardes une certaine dynamique, tu es invaincu, c'est quand même important dans la tête des joueurs parce que tu as une certaine solidité.
Tu prends peu de buts, mais.
Par contre, ce qui est là où c'est dommageable, c'est de se dire que bah, tu perds énormément de points. Puis quelquefois, il vaut mieux perdre et gagner un match derrière que de te dire je vais enchaîner et je suis invaincu. Donc il y a aussi ce côté-là qui est un peu. Alors bon, je pense qu'au fur et à mesure, ça va se régler et ça va s'équilibrer et ça va leur servir à quelque chose. Mais pour l'instant, ils perdent beaucoup de points à cause de ça.
Ça sent le match nul à plein groin, cette affaire, non?
Bah, je te dirais malheur au vaincu, parce que là les deux sont quand même vraiment pas bien. Mais moi la Juve, quand tu vois l'effectif, quand tu vois l'équipe type, moi je reconnais pas la Juve. Sincèrement, il y a des joueurs et
ce qu'on reconnaît, c'est les statistiques. Ils marquent peu, ils encaissent peu.
Ouais, mais tu vois sur la qualité des joueurs, par exemple leur attaque, Vlahovic très bien, le petit Conte Cessao qui débute, voilà c'est un jeune, ok, avec Wea. Voilà, t'as Kefren Thuram, t'as... Ok, mais c'est des
loin,
bons joueurs.
T'es loin de ce que tu avais dans le passé, donc forcément.
T'as plus le lustre de la Juve d'antan, et ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont vraiment dans le dur. Et du coup, il y a des clubs qui travaillent mieux. L'Atalanta travaille mieux, la Lazio travaille peut-être mieux, la Fiorentina, sans parler de l'Inter, qui est à mon avis, et Naples, qui sont au-dessus. Donc du coup, la Juve est devenue un club, mais moyen, ils sont sixième. Donc, ils ont reculé de plusieurs étages. Et d'ailleurs, quand ils viennent à Lille...
24 buts en 15 matchs, hein, marqués.
Voilà. Quand ils viennent à Lille et que Lille les accroche assez normalement, il y a match nul, il n'y a rien à dire. Et bravo aux Lillois. Mais du coup, la Juve est descendue de plusieurs étages. Moi, c'est ce que je ressens.
Donc, on est parti vraisemblablement pour un nul. Je ne vous ai pas demandé votre pronostic sur Borussia Dortmund, Barcelone.
Dortmund.
Bah oui. Dortmund, ok, d'accord.
Oui. Bah, sur la suite de la série incroyable, enfin incroyable, une très belle série à la maison. Et puis nul contre le Bayern en championnat, pardon, mais c'est une référence pour Dortmund. Donc, Oui, en plus, le Barça a un petit coup de moins bien. Flick s'est énervé. Moi,
retour,
ça me rappelle...
Retour de Flick en Allemagne.
Bon, donc, je me résume.
Ouais, simple Flick,
maintenant. Face à Barcelone et nul entre la Juve et City.
Oui. Ouais. Ouais, voilà, moi, je vois nul entre Barcelone
et Salerno fait tourner tout ça. On sortira ça à bon escient.
Alors, nul et nul pour moi.
Nul et nul.
Nul et nul.
Ok, très bien. Bon, ça, c'est le
ce gars. S'annule. Ouais.
C'est parce qu'il se dit que peut-être ça peut sauver Paris. en ce qui concerne le match 3, il nous reste 8-9 minutes. C'est bien, on est dans les temps. Le match 3, c'est une sacrée
affiche. C'est un bon match.
Ouais. Arsenal-Monaco. On devrait quand même là se régaler.
Là, ben là, surtout que
le 7e contre le 8e.
Attention à Monaco.
7e contre 8e. Donc
attention
deux
à Monaco parce que ils ont pris plein de points depuis le début. Ils ont fait un parcours fantastique. Mais cette défaite contre Benfica les met en alerte.
Et ce qui vient après,
parce qu'il y a trois gros matchs à jouer derrière. Et du coup, je ne sais pas s'ils sont capables d'aller chercher des points sur ces trois matchs.
Ils ont 10 points a priori d'après Opta, c'est 95% de chances de se qualifier.
Qualifié,
oui. Voilà, il y a Arsenal et ensuite je me souviens plus de leur programme. Vous l'avez, David ?
Non.
Mais c'est Inter
Inter, c'est sûr.
Et puis
le dernier match c'est Inter, mais le sud entre les deux.
Il n'y a pas Aston Villa
Aston Villa, exactement.
Ouais, donc voilà.
Des matchs difficiles.
Non,
et
Monaco,
c'est là-bas.
Monaco, le travail est fait. Après, ce qui n'était pas prévu, c'est de perdre contre Benfica. La manière dont ça s'est passé. Donc, on pense et on embrasse M. Radé Obrenović, l'arbitre de ce match. Pour le coup, ça fait très, très longtemps, et je le dis et je l'ai écrit, que je n'ai pas vu un arbitre se tromper à ce point-là pendant tout un match. Ouais. Donc, les Monégasques l'ont payé et très cher. Et même
très
à 10.
Arrogant, très arrogant, ouais, il était insupportable.
Il s'est trompé dans toutes les largeurs. Et même à 10, ils ont mené 2-1 contre Benfica. Donc, ça, c'est l'état d'esprit que insuffle Adi Hütter dans cette équipe que moi, je trouve absolument formidable.
Ouais,
ils ont refait le même match contre Marseille. Ils sont de nouveau perdus.
Exact.
Mais c'est une équipe qui joue et franchement, elle est belle à voir jouer.
Ouais,
alors après, ils ont beaucoup d'absents aussi, puisque c'est la thématique en ce moment dans beaucoup de clubs. Ils ont énormément d'absents. Demain, c'est demain. Demain, ce sera pareil également. Ils auront beaucoup d'absents. Mais je suis pas sûr, Rabé, ça va te faire de la peine ce que je vais dire.
Ah, mince.
Que Arsenal est plus rassuré de recevoir Monaco que le PSG.
Ah,
la manière dont ils ont battu le PSG, je pense que demain, ils vont se méfier. Parce qu'en face d'eux, il y a vraiment une équipe qui joue. Et je pense que Monaco est capable d'aller faire quelque chose là-bas.
Bah, c'est tout ce qu'on espère. Hein.
Bon, je pense. Temps, Arsenal, on s'inquiète pas vraiment.
Non.
Marche plutôt très,
si
très bien.
Si jamais ça marche pas dans le jeu, ça marche sur les coups de pied arrêtés.
Voilà,
exactement. Donc,
les corners, qu'est-ce qu'on avait, cette stats, elle date de la semaine dernière de Bruno Constant qui nous disait sur corner Arsenal, c'est 22 buts depuis août 2023. Donc en 16 mois, 22 buts marqués sur ces corners.
Donc
certains disent qu'il faut peut-être regarder un peu tous ces joueurs qui. Il y a des frictions, il faut peut-être étudier
sur
ça.
Sur le dernier, là, on voit une petite
poussette. Comme des blocs basket, un peu, des choses comme ça.
Ouais, mais bon, assez violent pour le siffler, mais il y a quand même une poussette. Mais ça fait partie du jeu. Si t'as pas de VAR, tu le sais jamais. Donc, non, mais c'est vrai.
Je crois que Monaco est prévenu, pour le coup. Il y a les sacrés gaillards aussi, il va falloir les bouger. Hein. Même si Singo sera pas là
attention.
Demain.
Après, eux aussi, ils sont intéressants sur les coups de pied arrêtés à Monaco.
Ouais, bien sûr. C'est pour ça que c'est
le troisième du championnat de France contre le troisième du championnat d'Angleterre. Arsenal, donc on le rappelle, qui est à 6 points de Liverpool, mais qui a un match en plus à jouer. Liverpool et Arsenal, je regarde, oui, tenu en échec à Fulham le week-end dernier. C'est
stop,
vrai que parfois, il y a des petits trous d'air du côté des Gunners de Mikel Arteta. Hein.
Oui, il est resté sur une très très belle série, Arsenal, ce qui leur a permis de remonter et... C'est ce qui va leur manquer, j'ai l'impression, encore cette année.
J'ai l'impression qu'il leur manque toujours un
c'est
petit
ce genre
pour
de
être
match.
Vraiment champion. Parce que...
En plus, Liverpool fait une saison de fou.
Oui,
donc, je pense qu'à moins que, on va voir là pendant les fêtes, parce qu'on sait que ça peut jouer là aussi, que pendant les fêtes, Liverpool dévisse un peu. Et attention à Chelsea, parce que cette année, ils sont super impressionnants. Ouais, et les Français de Chelsea aussi. Donc non, il faudra voir, mais je trouve qu'il leur manque toujours ça, Arsenal. Voilà, là, tu vas faire match sur la Fulham. Quand tu veux être champion, tu fais pas match nul à Fulham, quoi.
Après, c'était l'occasion de revenir, bien
et
sûr.
Oui, tu reviens 4 points de Liverpool, et ils sont encore passés à côté. Et ça fait mal.
Arsenal-Monaco, petit prono ?
Nul.
Nul.
Non, c'est Garabé qui a dit nul partout.
Thiago Motta.
J'ai dit nul, ouais. un nul, c'est bien pour Monaco.
Ah, 3 nuls.
Et les deux équipes étant, comme vous le disiez, Olivier, dans la bulle, là, juste au-dessus de la zone de qualification directe, ça, c'est quand même aussi peut-être pour le mental des joueurs un argument. C'est-à-dire, ce match-là, on y va et on bascule du bon côté. Oui,
exactement.
C'est vrai pour les deux équipes, donc nul.
Nul donc en...
Quelle ambition.
Personne ne prend de risque. C'est très bien si vous allez sur les sites. Le quatrième match qu'on a retenu, c'est l'autre club français, bien sûr, qui sera en piste demain. Lille, quasiment qualifié aussi avec 10 points. Et qui l'eût cru ? 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Lille est 12e et va recevoir le Sturm Graz, qui est 29e. On se dit que là, si tout va bien pour Pep Genesio et ses troupes, ça peut presque assurer le top 16.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais depuis la défaite au Sporting, logique, hein, ils s'étaient fait vraiment balader au Sporting, ils n'ont plus perdu un match et ils ont joué des très très grands. Ils ont battu les deux de Madrid. Et aujourd'hui, franchement, et même en championnat, ils sont rayonnants. Je pense que Bruno Genesio fait quelque chose de très très fort avec cette équipe. Ils reçoivent grâce et s'ils gagnent, ça fera 13 points. Autant dire que c'est plié, c'est bon. Donc,
Ils ont tout ce qu'il faut pour passer.
Ils ont tout ce qu'il faut. Là, vraiment, on ne comprendrait pas qu'ils ne battent pas cette équipe. Ouais. Il faut se méfier. Mais ce qu'arrive à faire Bruno Genesio, je trouve, avec des joueurs qu'on découvre. Moi, je suis totalement fan de Boadi, par exemple, qui est un mec merveilleux.
Bah, puisque vous parlez de Boadi, on va écouter Benjamin André. Le capitaine, le capitaine
qui
de
Boadi. Hein.
Qui nous parle
parler de Boadi. Qui nous son père.
De ce Sturm Graz.
Il y a eu énormément de changements au niveau des joueurs. Ils ne jouent pas dans le même système. Ils ont changé de coach. Tout est remis en cause. Donc, ce serait une erreur de se dire qu'on doit appliquer les mêmes principes que ce qui ont été fait l'année dernière. Là, il faut vraiment se dire que c'est une équipe complètement différente, un match complètement différent parce que c'est dans une autre compétition et que forcément, il y a plus d'enjeux, il y a plus de pression, il y a plus de lumière aussi. Encore une fois, on a bien bossé, on va encore bien bosser parce qu'on a envie de remporter ce match, évidemment, surtout à domicile, devant nos supporters. Il ne faut pas le prendre comme si c'était une équipe qu'on devrait logiquement battre. Non, c'est un match de Champions League, tous les matchs sont difficiles à jouer et il faut l'avoir en tête, évidemment.
Il a raison, Benjamin André. Ouais. Ils en savent quelque chose, les Lillois, puisqu'ils ont battu le Real Madrid. Personne ne l'aurait cru. Ils ont battu l'Atlético. Personne ne l'aurait cru. Donc attention, ce serait dommage de se faire surprendre. Encore une fois, avec une victoire et 13 points, vous assurez quasiment le top 16.
Non, mais là, moi, j'ai du mal à croire qu'ils puissent se démobiliser pour un match comme celui-là. Ça arrive, évidemment. Il n'y a pas de vérité. Mais cette équipe de Lille est quand même plutôt sérieuse depuis le début. En Ligue des Champions, elle sait qu'elle a une chance vraiment de passer, de s'assurer le coup. Donc je ne vois pas comment il pourrait rater ce match-là avec un Genesio qui sait déjà tout ça en plus. Donc le discours sera très facile pour lui.
Sturm Graz, c'est typiquement les équipes qui font une belle saison. Là, en l'occurrence, ils sont passés devant RB Salzbourg, ce qui n'était pas arrivé depuis le siècle dernier.
Qui ne met plus un pied devant l'autre jusqu'à ce soir.
Et ensuite, qualifié en Ligue des Champions, la marche est trop haute pour ces équipes-là. Ils ont marqué deux petits buts, je crois, depuis le début. C'est le moment ou jamais pour Lille là, à la maison en plus.
Là, si Eric nous dit match nul sur ce match, je sors.
Eh bien alors justement, allons-y. Le pronostic.
Eh bien 2-2. non, 2-0.
2-0 pour Lille à domicile face à Sturm Graz.
Ouais, 3-1 pour Lille.
Oui,
ouais,
Lille doit s'imposer, Olivier, même si c'est un peu
même
compliqué.
Même si c'est 1-0.
Hein. L'équipe adverse est impotente, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, donc c'est le moment. 1-0.
C'était pas prévu, mais il y a un match juste rapidement. Atlético Madrid, Slovan Bratislava. On rappelle que Lille Sturm Graz, c'est un match à 17h45 temps universel, comme l'Atlético de Madrid, Slovan Bratislava. Est-ce qu'on le regarderait pas juste pour le plaisir de voir Antoine Griezmann
quand on en a un
qui revient pas en équipe de France, mais qui est toujours Mbappé, lui qui a décidé de partir. Quel bonheur ce joueur! On s'en rend compte quand on est en train de le perdre chez les Bleus.
Peut-être que aussi il s'est un peu libéré de tout ce qui traînait de l'autre côté, et du coup,
il est
bien sûr, mais je veux dire, il est encore plus tranquille avec sa situation et ça lui permet de profiter de s'éclater sur le terrain. Donc voilà, je suis très content pour lui parce que c'est un mec qui mérite, qui a toujours eu l'état d'esprit et ça va continuer encore.
Demain, ce sera contre la pire défense de la compétition, donc c'est le moment de profiter pour lui.
Ah bah oui.
Eh ben voilà, on a fait le tour. Merci messieurs d'avoir pu aborder tous ces sujets. Moi, je suis encore au Cambodge, là, du côté des temples d'Angkor. Ça donne envie. On va aller boire une petite pression sur les bords du Mékong, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez après ? On appelle la dame et on lui dit de venir. Allez monsieur Salerno, il faut rendre. Là maintenant, vous retrouvez la dame. Demain, c'est promis.